Bonjour. Alors, nous sommes le vendredi 3 juillet et je vais vous faire une étude qui sera une aimable répétition pour plusieurs, puisque je vais prendre dans le livre d'Énoch au sujet des sceaux de l'Apocalypse. Et je vais vous parler de ces choses-là afin que cela soit bien clair et que vous n'ayez pas d'hésitation quant à ces choses. Alors je vais vous lire d'abord dans le livre d'Énoch au chapitre 49. Il faut savoir que Énoch, c'est lui qui le premier a écrit. Ce n'est pas Moïse le premier qui a écrit. En fait, le livre d'Énoch, il se trouve dans les Bibles éthiopiennes. C'est le seul pays qui a reconnu que le livre d'Énoch est inspiré et ils l'ont dans leur Bible. Et puis, nous avons des extraits du livre d'Énoch qui nous viennent de gauche et de droite, mais surtout nous avons retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte des passages du livre d'Énoch qui confirment que le livre d'Énoch était connu. Et même l'apôtre Jude en parle du livre d'Énoch. Il cite même une prophétie du livre d'Énoch. Donc, pour ma part, je crois que ce livre est inspiré. Voilà, maintenant je vais vous faire la lecture du chapitre 49 du livre d'Énoch. Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour. Il y aura un changement pour eux. La lumière du jour habitera en eux. Et la splendeur et la gloire viendront vers les saints et les illuminera. Dans les jours de trouble, lorsque le malheur se sera accumulé sur les pécheurs et que les maux fondront sur eux, les justes triompheront au nom du Seigneur des esprits. On sait que ce nom, c'est le nom de Jésus. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains. Ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des Esprits, mais qu'ils peuvent encore être sauvés par son nom. Le Seigneur des Esprits exercera sa miséricorde sur eux, car grande est sa clémence et sa justice est en ses jugements. Il n'y a point d'iniquité en lui. Ainsi, quiconque ne fera point pénitence périra. Non, ils n'auront plus de grâce à attendre de moi, dit le Seigneur. Donc, nous vivons dans des temps de trouble en ce moment. Les gens, les temps de trouble, c'est maintenant. Ça n'a jamais été aussi trouble qu'aujourd'hui. Même la justice, les gouvernements, les magistrats, tout ça, c'est corrompu. Bon, ce qu'Énoch voit là n'est pas le jugement au grand trône blanc qu'on peut lire dans Apocalypse 20, verset 11. Énoch voit l'enlèvement des vainqueurs du dernier âge que nous appelons l'âge de Laodicée, qu'on trouve dans Apocalypse au chapitre 3, versets 14, 17, et aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Je vous demanderai de prendre un papier et un stylo et de noter les références afin que vous puissiez les lire et les méditer et réécouter ensuite ce message afin de bien l'assimiler parce que c'est très important. Alors, depuis que Jésus a créé son Église, eh bien, son Église, il y a sept âges, sept périodes qui se sont écoulées. Dans chaque âge, dans chaque période, il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Je répète, depuis que Jésus a créé son Église, il y a eu sept périodes bien distinctes. Et Jean a reçu l'ordre d'écrire à l'ange d'Éphèse. Alors on se demande comment est-ce que Jean a pu écrire une lettre à un ange, est-ce qu'il a fait ça? Il l'a envoyé dans une enveloppe avec une adresse. Non, non, l'ange d'Éphèse, c'est l'homme que Dieu avait envoyé à Éphèse pour diriger cette église, mais cette église était aussi une église prophétique. Elle était ce que l'Église était au commencement, l'âge on appelle ça l'âge d'Éphèse. Et voilà ce qui est écrit dans Apocalypse 2, 7. C'est une prophétie qui concerne donc le premier temps de l'Église. Ils sont les vainqueurs de l'âge durant lequel l'influence de Paul était grande dans la véritable Église de Jésus-Christ. Cet âge se déroule de 53 à 170 après Jésus-Christ. On peut lire ça si vous voulez. Je vais prendre ma Bible et ouvrir cela dans Apocalypse au chapitre 2. Et je vais vous lire la première prophétie qui concerne le premier âge de l'Église de Jésus-Christ. Écrit, donc c'est écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, donc Jésus, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as eu la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes l'œuvre des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc l'ange d'Éphèse, si vous voulez, c'était l'apôtre Paul, l'homme qui a le plus influencé cet âge-là. Et dans cet âge-là, déjà, l'apôtre fait, le Saint-Esprit fait un reproche, il dit « tu as abandonné ton premier amour ». C'est vrai que déjà au début, hier un frère m'écrivait, mais pourquoi est-ce qu'on ne vit plus en communauté? Pourquoi est-ce que les églises vivent comme des synagogues, en fait, des assemblées, mais c'est plus des communautés comme c'était au départ? Je dis, mais c'est par un manque d'amour. C'est pas que les gens n'aiment pas Dieu, mais ils ont de la peine à aimer leur prochain. Ils ont donc abandonné leur premier amour, ils ne persévèrent pas dans la communion fraternelle. Ils ont laissé tomber leur premier amour et donc Dieu leur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier. Et ça, c'est ce qui s'est passé environ 173 ans après Jésus-Christ. L'Église a vécu en communauté jusque-là à peu près dans toutes les nations, mais déjà, de plus en plus, les gens se séparaient, rentraient chez eux le dimanche, et puis ils voulaient plus vivre en communauté, ils manquaient d'amour les uns pour les autres. Ensuite, et puis il y a des vainqueurs, il y a ceux aussi qui persévèrent. Dans tous les temps, il y a toujours eu un petit groupe qui a persévéré. Ensuite, il dit, écrit à l'ange de Smyrne. Ensuite, donc, le Saint-Esprit dit, le Seigneur dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, donc à celui qui est envoyé comme responsable de cette époque, voici ce que dit le premier et le dernier, donc Jésus, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, donc on comprend bien que c'est Jésus, je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous aussi soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez que c'est déjà un temps de persécution. Ce sont les vainqueurs de l'âge de Smyrne, un âge dans lequel c'était Irénée qui était la personne la plus influente de l'époque. C'était dans la véritable église de Jésus-Christ, c'était Irénée encore dans cet âge qui était l'homme qui était le plus près de la parole de Dieu. Et cet âge-là se déroule entre 170 et 312 après Jésus-Christ. Mais les persécutions ont commencé. Alors il dit, oui, je sais que tu es pauvre et pourtant tu es riche. Ils sont riches parce qu'ils ont encore les choses de l'esprit, si vous voulez, mais matériellement, ils sont très appauvris à cause de la persécution. Ensuite, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants, donc la parole de Dieu, hein, c'est l'épée à double tranchant. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Et tu es fermement attaché à mon nom, tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Là, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Au début, vous voyez, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu détestes l'œuvre des Nicolaïtes. Au début, c'était des œuvres des Nicolaïtes, puis maintenant, c'est une doctrine. Ce qui était une œuvre au début, c'est devenu une doctrine. Mais qu'est-ce que c'est l'œuvre et la doctrine des Nicolaïtes? Eh bien, Nicolaïte, c'est un mot grec composé qui signifie... Nikaos qui signifie dominer, et Laos qui signifie les laïcs. Et c'était des gens qui n'étaient pas véritablement chrétiens et qui voulaient diriger l'Église. Déjà, il y avait le monde qui rentrait dans l'Église pour diriger à sa façon. Et Jésus dit, je déteste, vous rendez compte, le Dieu d'amour dit, je déteste ça, je déteste l'œuvre des Nicolaïtes, et je déteste la doctrine des Nicolaïtes. Alors, il dit, toi aussi, tu as des gens qui sont attachés à cette doctrine, repends-toi donc afin que... Sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire avec sa parole. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ce sont des gens qui ont des vainqueurs à cette époque-là, durant cet âge. Et la personne qui a influencé cet âge-là, qui se déroule entre environ 312 et 606 après Jésus-Christ, la personne qui a influencé cet âge-là, c'est Martin. Martin, c'est lui qui a véritablement influencé, vous connaissez tous l'histoire de Martin, c'est ce soldat qui avait un pauvre et qui a partagé, qui était nu dans la neige, qui a partagé son manteau, qui lui a donné la moitié de son manteau, et dans la nuit, ce pauvre revêtu de la moitié du manteau de Martin lui est apparu, et en fait c'était Jésus. Et il faut lire l'histoire de Martin, c'est très intéressant de lire l'histoire de l'Église. Et Martin, c'était quelqu'un de... il n'a pas fait que ça, mais il a fait ça. Et c'était quelqu'un qui a influencé les œuvres de cette époque, c'était pour les pauvres, et c'était quelque chose d'extraordinaire dans cette époque. Ensuite, il est dit, écrit à l'ange de Thyatire. C'est donc une ville à l'époque, mais c'est aussi un temps. C'est un temps qui se déroule entre 606 et 1520 à peu près, après Jésus-Christ. Et voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire qui n'acceptaient pas cet enseignement, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, l'église de Thyatire, bon, ce sont les vainqueurs, il y a des vainqueurs, les vainqueurs de cet âge sont sous l'influence d'un homme qui s'appelait Colomba, qui était un homme de Dieu qui a apporté beaucoup à l'Église à cette époque-là. C'était, si vous voulez, un réformateur déjà dans son temps. Et parce que c'était l'Église, cette fameuse Jézabel c'est dont il est question là, c'est l'Église catholique naissante qui a commencé à pervertir le message de Jésus-Christ. Et Jésus est contre elle et il est vraiment fâché contre cette église qui pervertit son message, qui vend le salut, qui prône l'idolâtrie, toutes les cochonneries qu'on connaît de cette histoire de cette église. Enfin bon, voilà. Ensuite, il est dit que cet âge-là, donc, est sous l'influence de Colomba. Je vous recommande d'aller chercher dans un bon dictionnaire biblique qui est ce fameux Colomba. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Il faut que vous fassiez vous-même aussi des études. Ensuite, il est dit qu'il faut, l'ange dit, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, c'est-à-dire ce qui te reste, quoi. Ce qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la, repens-toi, mais si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure, je viendrai te surprendre, pendant que tu es à Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, vous avez une lettre qui est envoyée donc à l'église de Sardes. Et les vainqueurs de cet âge sont sous l'influence du réformateur Martin Luther, pas Martin Luther King, l'américain, mais Martin Luther, l'allemand, le réformateur, celui qui est le fondateur en quelque sorte du protestantisme, qui a protesté contre la grande prostituée, cette Jézabel, cette fausse église, il a protesté. Et puis, alors il y en a qui marchent avec Martin Luther, mais ils sont persécutés, mais il y en a qui tiennent ferme, et ceux-là seront revêtus de vêtements blancs, comme Jésus lui-même, et ils régneront avec lui. Mais voilà, les protestants, malheureusement, ils ont un petit peu dégringolé depuis. Ce que vous voulez, l'Église, l'histoire de l'Église se déroule dans le temps, et alors il y a toujours un moment de réveil, et puis ensuite ça s'endort encore. Alors ensuite, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire à la personne qui est responsable de l'église de Philadelphie, à celui qui était à l'époque le pasteur de l'église de Philadelphie, mais qui, dans l'histoire de l'église, est un homme qui a porté beaucoup à l'église et qui s'appelle John Wesley. Son temps, son influence a duré de 1750 environ à 1830. Et il écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Ça c'est important parce que maintenant on invoque le nom de Sainte Marie, Sainte Rita, Sainte je ne sais quoi, Gudule. Mais les véritables vainqueurs, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé mon ordre. De persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, les vainqueurs de cette époque-là, durant l'influence de John Wesley, c'est lui qui a lancé l'évangélisation d'une façon massive à l'époque. C'est un âge de réveil extraordinaire, mais c'est aussi... ceux de Satan sont obligés de reconnaître quand même qu'il se passe quelque chose dans le protestantisme, dans l'église de à l'époque c'était pas encore ni les baptistes ni les pentecôtistes, mais c'était déjà les prémices de tout cela. Et ceux de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs mais qui ne le sont pas, voilà, ça c'est encore toute une histoire, il faudra une fois que je vous en parle. Mais c'est historique, hein, c'est historique. Et puis ensuite, on arrive à la dernière église, c'est-à-dire à notre époque. C'est l'église de Laodicée. Laodicée, c'est le temps qui va de 1830 à peu près au jour du retour de Jésus. Alors la personne qui influence cette époque-là, je veux pas me lancer à dire des noms, parce qu'il y en a qui disent que c'est William Branham, il y en a qui disent que c'est Joseph Smith, il y en a qui disent que c'est... Moi, je ne veux pas dire le nom, mais j'ai ma petite idée au sujet de qui a influencé véritablement cette époque-là. Mais c'est à vous de comprendre. Voilà ce que Jésus écrit, dit à Jean d'écrire, écrit à l'ange... L'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, c'est-à-dire la parole de Dieu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, c'est-à-dire la pureté, la sanctification, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, parce que tout le monde se moque de l'Église aujourd'hui, et ils ont bien raison, hein, parce qu'il y a de quoi, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi-même, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, alors on vit dans une époque où on prêche une espèce d'abondance, une fausse doctrine de l'abondance, de la richesse. C'est, la richesse, c'est le signe que Dieu est béni, ou c'est archi faux, c'est n'importe quoi. Les pasteurs prêchent, je ne veux pas commencer à taper sur les pasteurs, mais ils se disent riches, mais ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Vous savez, j'ai été très souvent en Afrique et il m'est arrivé au début d'être choqué parce que je voyais des bonhommes et des bonnes femmes qui se promenaient toutes nues, tout nus dans la rue. Et je demandais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et on me répondait, c'est des fous. Mais il n'y a que les fous qui se promènent tout nus et qui ne le savent pas. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ, elle est toute nue, puis elle ne le sait pas, elle est ridicule, elle est impudique, elle est ni froide ni bouillante, elle est tiède, elle est tiédasse, alors qu'elle se vante de grandes choses, mais bon, Dieu dit, si tu te repens pas, eh bien, je vais finir par te vomir de ma bouche. Vous voyez quand Dieu va vomir cette Église de sa bouche. Et il dit, je me tiens à la porte, et je frappe. Alors quelqu'un qui se tient à la porte de l'Église, parce que c'est à l'Église que Jésus écrit, quelqu'un qui se tient à la porte de l'Église, c'est quelqu'un qui est dehors. C'est-à-dire que l'Église est l'ami de Jésus dehors. Jésus n'est plus dans l'Église d'abord, c'est plus des églises, c'est des clubs. C'est des clubs où on se réunit, on tape des mains, on se roule par terre, on pousse des cris, on saute, c'est du n'importe quoi. Et Jésus est à la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire si on entend qu'il est là, puis qu'il frappe à la porte, et qu'il vienne et qu'il ouvre la porte, Jésus dit pas, j'entrerai dans ton église. Non, 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 non. Il dit, je le ferai sortir de là et j'irai manger chez lui. C'est-à-dire, c'est de nouveau le retour à la vie communautaire, Jésus qui va manger chez les gens. Dans la vie communautaire, Jésus était dans son église c'était une église communautaire où Jésus était là avec ses disciples. Les disciples étaient avec Jésus, ils prenaient le pain et le vin, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils étaient tous un seul cœur, une seule âme. Jésus dit, pas, je reviendrai dans l'église, non, c'est fini. C'est Jésus frappe à la porte, si tu ouvres, si toi qui m'écoutes tu ouvres, bien Jésus va venir chez toi et il va souper avec toi et avec ceux qui sont avec toi. Et voilà ce que Jésus est en train de dire à l'église de notre époque. L'église de notre époque. Les vainqueurs dont nous parle le livre de l'Apocalypse sont ceux qui ne se sont pas prostitués avec la fausse église chrétienne et qui ont suivi fidèlement le Seigneur avec tout ce qui leur avait été donné dans leur âge respectif, alors que dans l'église prostituée, les gens se souillent, se vautrent dans l'idolâtrie. Les vainqueurs, ils sont restés à adorer Jésus-Christ par leur vie, selon ce que la Sainte Bible enseigne. Ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils manifestent les dons surnaturels, restaurés, ils marchent selon l'Évangile qui est rétabli petit à petit au plus près de ce qui est donné à chacun de comprendre. Ils cherchent à mettre en pratique tout ce qui se trouve dans la Bible, et plus particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, pour ce qui concerne la vie de l'Église. En ce moment, nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses dont il est question dans la Bible. Jésus reviendra à l'époque du rétablissement de toutes choses, mais l'Église est vraiment malade, elle est malade. Les vomissables et ceux qui refusent de suivre Jézabel, cette fausse église idolâtre, eh bien, ils cherchent dans les Écritures afin de vivre au plus près les choses que Jésus est en train de rétablir et surtout la façon de vivre la vie de l'Église. Ils refusent de se joindre à Rome, la mère des églises prostituées, parce qu'on dit toujours que c'est la mère des prostituées, mais c'est pas la mère des prostituées de la rue Saint-Denis. c'est la mère des prostituées, c'est-à-dire de ces églises qui se sont prostituées, qui ont vendu le message, qui se sont vendues, qui ont abandonné la sainteté, elles sont considérées comme des prostituées spirituelles. Rome est la mère des églises prostituées et ils ont refusé de s'associer aux organisations issues de cette prostitution spirituelle. On trouve ça dans Apocalypse 17, 5. Par contre, ils acceptent de travailler avec quiconque veut évangéliser le monde. Les vainqueurs sont ceux qui sont sortis du milieu des organisations dites chrétiennes afin de servir Dieu selon ce que la Sainte Bible ordonne. La base de ces ordonnances se trouve dans Actes 2, 37 à 47, vous lirez ça, c'est la base de ce que Dieu veut. Les vainqueurs de cet âge ne sont pas tous, n'ont pas tous pu vivre ces choses dans leur intégralité parce que Dieu est en train de rétablir ces choses-là, vous voyez, petit à petit, il a envoyé Colomba, il a envoyé Luther, il a envoyé tous ces hommes de Dieu qui ont rétabli petit à petit les choses, mais des choses qui étaient perdues et que Dieu est en train de rétablir comme c'était au début du temps des 12 apôtres. Mais ils ont vaincu et en ce sens ils ont été fidèles avec ce que Dieu leur a donné à leur époque. Il y a toujours eu des vainqueurs dans chaque époque, même s'ils n'ont pas vécu exactement comme par exemple les protestants, ils continuent à baptiser les bébés, ils ne vivaient pas en communauté. Martin Luther était bien gentil, mais il était antisémite. Enfin bon, il y avait des erreurs un peu partout. La fausse église dominant sur le monde, les vrais chrétiens étaient persécutés. De nos jours, la mère des fausses églises essaye de rassembler ses filles dans ce que nous appelons l'œcuménisme. Alors il y en a qui jurent que par ça, oui, mais voyez, c'est l'œcuménisme, on s'aime les uns les autres, on essaie de se mettre ensemble. Mais l'ordre de Jésus se trouve dans Apocalypse 18, 4 à 8, c'est-à-dire sortez du milieu d'elle, mon peuple, hein, afin de ne pas participer à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ils veulent s'assembler, mais autour de quoi? Pas autour de la parole. Les catholiques restent catholiques, les pentecôtistes restent pentecôtistes, les protestants restent protestants. Ils se rassemblent, ils disent Alléluia, gloire à Dieu, on a le même Dieu. Même maintenant, le pape, il se met copain avec les musulmans, avec les hindouistes, avec n'importe quoi, n'importe qui. C'est l'œcuménisme, c'est-à-dire c'est un mélange au nom de l'amour, mais pas basé sur la parole. Enoch voit que le malheur s'est amoncelé sur les pécheurs, on voit ça au verset 2 de ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors que faire aujourd'hui pour plaire à Dieu? Eh bien la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Se sanctifier, c'est se mettre à part de ce que Dieu n'aime pas. Ne pas se sanctifier, c'est faire preuve d'une mauvaise disposition de cœur envers Dieu. Mais le Seigneur est la sanctification de ceux qui croient. Il est du verbe être, la sanctification de ceux qui croient que son sacrifice sur la croix est le seul moyen que Dieu puisse accepter pour nous pardonner, nous purifier tous nos péchés. Et la fausse église, elle prêche que voilà, la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus. Mais c'est une hérésie. Jésus est mort une seule fois pour le péché, pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais pour toutes les générations. Et eux, ils veulent renouveler le sacrifice de Jésus en faisant la messe. Mais c'est une hérésie, c'est une abomination. 1 Corinthiens 1,30, vous lirez ça. Après avoir été sanctifiés par le Seigneur, les siens se sanctifient eux-mêmes en se séparant de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est vrai que Dieu nous sanctifie, mais c'est à nous aussi de nous mettre à part. C'est à nous de nous mettre à part. 2 Corinthiens 7, 1. Mais cette sanctification n'est pas une chose à ajouter à la grâce de Dieu qui nous est faite par Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on se sanctifie qu'on est sauvé. On est sauvé, alors on se sanctifie. On est sauvé, alors on se met à part pour Dieu et on obéit à Dieu. Nous ne pouvons absolument rien ajouter à ce que Dieu a fait, nous sauvons parfaitement. Éphésiens 2, 9, c'est clairement écrit, vous le lirez. Pourquoi nous séparons-nous de ce qui est mal? Nous nous mettons à part afin d'obéir à Dieu parce que nous l'aimons et non pour être sauvés. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est ce que signifie se sanctifier, c'est se mettre à part. se mettre à part de ce que Dieu n'aime pas. Ne pas se sanctifier, c'est faire preuve d'une mauvaise disposition de cœur envers Dieu. C'est dire, oh ben écoute, bon ben, moi je me suis fait baptiser avec 3 gouttes d'eau, Dieu il a qu'à être content avec ça, pourvu qu'il y ait de l'eau. Non, il faut se faire baptiser comme Dieu veut qu'on se fasse baptiser. Le mot baptême signifie immersion, on ne fait pas comme on veut. Si on veut faire la volonté de Dieu, on fait la volonté de Dieu qui est écrite dans la Bible et non pas dans la tradition humaine. Aucun chrétien véritable n'est parfait en action, en parole et en pensée, mais sa détermination à vouloir plaire à Dieu doit se remarquer dans sa vie. Il se sépare de ce que la Sainte Bible appelle le péché. Un véritable chrétien ne peut pas participer aux œuvres criminelles qui sont faites et se font encore dans les églises apostates. Il doit en sortir. Moi, je suis désolé, on me dit, oh, l'Église catholique, elle a massacré mes ancêtres. Elle a massacré mes ancêtres, je suis désolé. Sous Louis XIV, à Grenoble, il y avait des gentons, ils ont presque tous été massacrés, assassinés, envoyés aux galères. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à fuir. C'était des criminels. Alors, on leur a enlevé le pouvoir maintenant, heureusement. Il y a une séparation entre l'Église et l'État, heureusement, parce que sinon, qui c'est qui irait? Le premier qui irait sur le bûcher, c'est moi, hein. Il rallumerait les bûchers et je serais le premier à y aller à cause de ce que je dis, de ce que je prêche. Un véritable chrétien ne peut pas participer à ces œuvres criminelles qui se font encore aujourd'hui. Il doit sortir de là. Lorsque les véritables chrétiens auront été enlevés de cette terre, les vrais enfants de Dieu qui seront restés sur cette terre auront à se repentir de ne pas avoir fait la volonté de Dieu qui est écrite au temps de la grâce qui était écrite. Et s'ils se repentent, ils pourront être sauvés, mais comme au travers du feu, il nous est dit, c'est-à-dire ça va être difficile, hein, au travers de la grande tribulation qui sévira pendant 7 ans sur la terre, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 3:15. Vous voyez que ça n'est pas simple. On ne vit pas des petites choses rigolotes. Ah, Jésus nous a aimés, Jésus nous a sauvés, c'est merveilleux, gloire à Dieu, tout est bien. Non, c'est pas vrai. Il y a des exigences et nous avons à obéir à ce que Jésus veut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Réécoutez ce message, prenez conscience de l'importance de ces choses et mettez-vous en ordre avec Dieu. Que Dieu vous garde. Au revoir.